bonjour et bienvenue à tous dans ce débat politique. Nous parlons de l'avènement de la rébellion de la Séléka qui avait renversé le régime du général François Bozizé Yangouvanda le 24 mars 2013. 10 ans après, les autorités centrafricaines peinent à asseoir la sécurité dans tout le pays. Ceci malgré des multiples initiatives de paix soutenues par la communauté internationale. Pourquoi toutes les résolutions tendant à ramener la paix n'ont-elles pas réussi à consolider la quiétude? Quel est le vrai problème? À qui la faute? Pour répondre à ces interrogations, le plateau Patara, le tout dernier débat politique hein, du mois de mars, fait place à Monsieur Joseph Bindoumi. Bonjour.
Bonjour.
Président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, ancien ministre de la Défense, Madame Constance Nathalie Gounebana, bonjour et bienvenue pour la première fois dans le débat politique Patara.
Merci beaucoup, Armando.
Vous êtes présidente du collectif des femmes de l'opposition démocratique, ancienne ministre des Eaux et Forêts à l'époque du président Ange-Félix Patassé. Et l'autre invité, c'est l'ancien candidat à la dernière présidentielle de 2020, qui est l'actuel ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Monsieur Serge Nadjuri, bonjour.
Bonjour, Monsieur Armando, bonjour. Auditeurs de la zone des Kélouka, bonjour à la population centrafricaine tout entière.
Armand Nguindi, c'est moi, tout de suite nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio des Kélouka.
Ouvrons le bal avec vous, hein, Madame Constance Gounebana. Quel souvenir gardez-vous de l'avènement de la coalition, de la rébellion hein, Séléka?
Je pense que la rébellion Séléka a pris le pouvoir d'une manière très violente qui a marqué les Centrafricains jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ça, il y a eu un cercle de violence qui a été perpétré entre 2013 et 2014, où les Centrafricains en ont souffert. Ils ont perdu leurs biens, ils se sont retrouvés dans des sites de déplacés. Il y en a beaucoup qui sont partis à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on constate que la violence et l'insécurité persistent. Donc, raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, pour essayer d'échanger là-dessus et d'en discuter.
Merci beaucoup. Et Monsieur Joseph Bindoumi.
Je vous remercie, Armando. Effectivement, en 2013, précisément, au mois de mars, le 24 mars, la coalition de groupes armés réunis sous l'appellation de Séléka a marché sur Bangui et a conquis le pouvoir de l'État en plaçant sa tête de l'État centrafricain, Michel Ndiotodia Amnon Troco, qui est donc le chef de l'État de la transition. Mais ce que nous avons remarqué au cours de cette prise de pouvoir par la force, c'est que le régime Séléka a imposé sur le territoire de la République centrafricaine un système de terreur. Donc c'était un régime qui a réfléchi en disant que la meilleure façon de gouverner en République centrafricaine, c'est d'imposer la terreur sur l'ensemble du territoire national. Et donc c'est ce régime-là que les gens ont célébré le 24 mars dernier, mais nous reviendrons tout à l'heure dans les débats parce que chaque fois que la terreur existe quelque part, cette terreur donne un sens à une autre forme de terreur. C'est la raison pour laquelle le mouvement anti-Balaka est né et puis que nous avons connu, avec les deux mouvements en conflit, de graves atrocités sur la population et des violations massives et systématiques des droits de l'homme.
Oui, monsieur le ministre, Serge Nadjuri, quel souvenir gardez-vous de cet événement ou de cet avènement, j'allais dire, de la rébellion de la Séléka?
Pas seulement un souvenir, mais plutôt un sentiment de désolation avec une incubation d'un virus de désordre et d'un civisme qui continue à gangréner et l'administration centrafricaine et le paysage centrafricain dans son ensemble, et pour lequel on n'arrive pas à trouver un antivirus pour pouvoir corriger cela, le tout surmonté par un esprit de reprise de pouvoir, par le verdict des armes, pas par le verdict des unes, et qui montre à suffisance que la République centrafricaine aujourd'hui témoin des campagnes de dénigrement. Et aujourd'hui, la population centrafricaine continue toujours, à travers les séquelles de cette rébellion, par des poches de banditisme de grand chemin. Je pense que le sujet d'aujourd'hui, nous allons en débattre. Mais en tout cas, le sentiment, c'est un sentiment de désolation et qui n'honore pas notre peuple et la République centrafricaine qui, par le passé, était considérée comme la Suisse d'Afrique, c'est-à-dire un pays de paix où on se retrouve, on circule de l'est à l'ouest, du nord au sud, tranquillement, avec toute inquiétude.
Voilà, merci beaucoup à vous. Hein. Mais avant de poursuivre le débat, retour sur les temps forts du putsch du 24 mars 2013, hein, conduit par Michel Ndoto-Diarno-Ndroko, numéro 1 de la Séléka. Ursula Mervé-Mévalin.
Nous sommes le 24 mars 2013, un dimanche des rameaux. Bangui, la capitale, se réveille sous des détonations d'armes lourdes et légères. Après de combats sanglants, la veille contre les forces armées centrafricaines FACA, appuyées par leurs alliés sud-africains, les éléments de la CPC parviennent à franchir la ligne de Damara. 24 heures après la prise de pouvoir, Michel Diotodia s'autoproclame le nouvel homme fort du pays. Mais en 10 mois, la cohabitation entre Michel Diotodia et son premier ministre, Nicolas Tshangai, issu de l'opposition démocratique, devient difficile. On enregistre alors des actes de représailles, des violations des droits humains et de pillages perpétrés par ces hommes de la Séléka. Dans la foulée, une milice appelée Anti-Balaka, composée à majorité des militaires fidèles à l'ancien président François Bozizé, tente de renverser le régime de Michel Diotodia le 5 décembre 2013. En un seul jour, l'attaque a coûté la vie à plus de 1000 personnes selon des ONG. Qualifié d'impuissant à régler le conflit, le président Diotodia et son premier ministre Nicolas Tshangai cèdent aux pressions des présidents de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sous l'égide de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, les deux dirigeants centrafricains démissionnent de leurs postes respectifs le 10 janvier 2014 à N'Djamena. Le président du Conseil national de transition, Alexandre Ferdinand Guindé, va conduire la transition jusqu'à l'élection de Catherine Samba-Panza, ancienne maire de Bangui, le 20 janvier 2014. Cependant, la transition de Samba-Panza, soutenue par la communauté internationale et qui devait conduire aux élections, fait face à un grand nombre de défis sécuritaires et sociopolitiques. Après les élections de 2016, Faustin Conchoitera hérite d'un pays fortement affaibli et sera obligé de composer avec les forces en présence, principalement les groupes armés. Face à la persistance des violences dans le pays, le régime de Bangui décroche la signature d'un accord de paix avec les 14 groupes armés le 6 février 2019, après de longues négociations à Khartoum, au Soudan. Un an plus tard, 6 groupes armés sous l'impulsion de François Bozizé claquent la porte et créent la CPC à Kambakota afin de renverser le pouvoir de Bangui lors d'une attaque du 13 janvier 2021. Aujourd'hui, 10 ans après l'avènement de la Séléka, la RCA peine à renouer avec la paix malgré des multiples initiatives de la communauté internationale. Le chef de l'État centrafricain se voit obligé de faire appel aux forces russes et rwandaises afin de contenir les ambitions de son ancien mentor François Bozizé, actuellement en exil en Guinée-Bissau.
Merci Ursula. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la persistance de l'insécurité. 10 ans après, les conséquences néfastes de ce coup d'État gangrènent aussi toujours le pays. Qu'est-ce qui explique selon vous la persistance de l'insécurité, Madame Gounebana?
Mais je pense qu'il y a beaucoup de causes concernant la persistance de l'insécurité. Il y a des revendications qui sont purement d'ordre social, des revendications d'inclusion, parce qu'il y a une partie de la population qui se sent lésée.
Disons,
des revendications d'inclusion, c'est-à-dire qu'il faut les inclure dans la gouvernance. D'accord. Les prendre en compte. Il faut les prendre en compte parce que elles se sentent marginalisées. Il y a des régions également qui sont complètement coupées. Et je pense que si on avait mis en place les collectivités locales, la décentralisation, ça pouvait régler aussi une partie du problème. Mais également, il y a ce facteur de paupérisation. La population vraiment, vraiment aujourd'hui très, très pauvre. Il n'y a qu'à voir les indices de développement durable. Tous les indicateurs sociaux aujourd'hui sont alarmants. Donc la population vit dans une extrême pauvreté. Et cette insécurité a fait exploser les besoins humanitaires. Aujourd'hui, dans le plan de réponse humanitaire des agences du système des Nations Unies, il est question de venir en aide à 3 400 000 personnes en 2023. Et je pense que dans un communiqué du FMI, le FMI a fait allusion également à ce besoin humanitaire d'urgence parce que cette guerre qui a duré 10 ans aujourd'hui plonge la population dans une très très grande vulnérabilité. Ici à Bangui, la situation est volatile, mais en province, nous qui faisons beaucoup les provinces, la population vit vraiment dans la précarité et la résurgence de l'insécurité fait fuir les personnes dont l'accès aux services sociaux de base est fortement limité, ainsi qu'aux moyens de subsistance, parce que quand les populations sont obligées de se mettre à l'abri parce qu'il y a des conflits, ces populations abandonnent leur champ, abandonnent tout. Et puis après, bon, ben, ça les plonge dans une situation vraiment de précarité. Donc là, vraiment, les besoins humanitaires explosent. La population est dans une grande vulnérabilité. Et je pense que, bon, c'est compréhensible parce que cette même population, à force d'absorber des chocs, hein, on dit bien que ça fait depuis 10 ans qu'on vit ces problèmes d'insécurité. Alors, la population vit ces chocs sécuritaires depuis plus de 10 ans, depuis même 2 décennies. Et à ces chocs sécuritaires s'ajoute le choc dû au Covid-19. La RC a dû faire face à la deuxième vague du Covid-19 qui a impacté également la population civile. Il y a eu des mesures de restriction, mais il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Et aujourd'hui, en 2022-2023, il y a une énième crise qui s'invite dans les ménages. La crise économique avec l'inflation galopante, des denrées de première nécessité. Donc moi, je dis que la population peut-être ne vit plus. La population survit à force d'absorber des chocs successifs, sans répit, sans même avoir le temps de s'adapter ni de se reconstruire.
Mais selon vous, mais à qui la faute? Le vrai problème, qui devrait en principe prendre le contre-pied de tout ce que vous avez dit?
Mais il y a un président de la République qui a été élu sur la base d'un projet de société. Aujourd'hui, il en est à 7 ans de gouvernance. Et je pense qu'il y a eu, le président de la République a été élu sur la base d'un projet de société. Il y a eu des engagements qui ont été pris. Alors ces engagements doivent concerner l'amélioration des conditions de vie de la population. Ça doit être la priorité des priorités. Mais aujourd'hui, on constate que en 7 ans d'exercice du pouvoir, pourquoi? Nous, on se demande pourquoi les chiffres sont aussi mauvais, pourquoi les chiffres sont alarmants. Donc nous, on se pose également les mêmes questions.
Monsieur Serge Ndjuri, 10 ans après, mais la précarité, vous avez écouté Madame Gounebana sur cette situation, elle a brossé depuis 10 ans les conditions néfastes de la prise de pouvoir par la CELICA sur la population.
Monsieur Armando, moi je pense que je vais aborder dans un sens de conscience et dans un esprit analytique. On ne va pas parler de l'économie pour le moment, mais je vais plutôt parler d'échec. L'échec à l'échelon international, puisque aujourd'hui, le conflit met en exergue plusieurs composantes, la composante nationale et la composante internationale. Voyez-vous, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, puisque quand on parle de décennies, il faut retracer l'histoire. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, la République centrafricaine fait face à des crises récurrentes. On avait mis en place plusieurs composantes pour pouvoir ramener la paix dans le pays. Et aussi, nous ne sommes ignorés que nous avons ratifié le traité des Nations Unies. Alors, au début, il y avait Bonuka qui n'a pas marché. On avait eu Misab. Ça, le conflit était au niveau de la capitale. Ça n'a pas marché. Avec le concours des institutions internationales, je parle du concours des institutions internationales, aujourd'hui nous avons la MINUSCA. À mon avis, l'échec continue. Il faudrait qu'on fasse cette analyse à cette dimension. Puisque quand on va parler de précarité ou bien de l'indice de développement humain, c'est seulement si tous les facteurs sont réunis. Et le premier facteur déterminant de tous ces indices, c'est quoi? C'est l'aspect sécuritaire. C'est ça. Alors, avec tout ça, tous les matériels et toutes les résolutions que nous avons eues, ou bien le système des Nations Unies a eu voté, ça n'a pas apporté la solution. Voyez-vous, la dernière résolution 2655 donne plus de mandats à la MINUSCA pour pouvoir voler au secours et même à la formation et la mise à disposition et de l'État centrafricain des moyens adéquats et de nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires et en formation et en logistique pour pouvoir faire face à ce qui se passe actuellement. Alors, je vais dimensionner la situation. Après, je vais parler de l'aspect économique plus tard. Vous voyez, il faut faire une analyse de la situation que nous vivons aujourd'hui. Je vais faire un élargi de la crise. Et maintenant, la composante intellectuelle. Alors, vous voyez, le même phénomène qui se produit aujourd'hui dans notre pays, c'est le même phénomène qui se produit au Burkina Faso et au Mali, avec un système d'attaque qui n'est plus pareil par rapport à une force nébuleuse ou bien à la rébellion. Donc, vous voyez, si on cherche l'origine, l'origine vient un peu de loin. Si
vient un peu de loin, de nos voisins, de l'extérieur, vous voulez dire quoi par là?
Vous voyez, je vais vous faire une analyse plus simple. Aujourd'hui, si vous regardez la géopolitique dans le monde et les pays qui sont victimes des crises, et vous faites une analyse, vous allez voir que lorsqu'on attaque une position de nos forces de défense aujourd'hui, ici en Centrafrique, le lundi, le mardi, on va attaquer au Burkina, le mercredi, on va attaquer au Mali. Alors, concours des circonstances, vous savez que le mercredi 23, on a attaqué la position des forces de défense et de sécurité au Burkina Faso, au centre de Burkina Faso, notamment près de l'Ak Dem. Et le jeudi 24, on a attaqué la position de nos forces de défense et de sécurité à Markunda.
Mais ce ne sont pas les mêmes acteurs.
Je vous fais une analyse approfondie. Parce qu'il ne faut pas chercher la cause au niveau interne. Parce que je sais qu'il y a une gangrène qui est là, il faut chercher. Il y a un abcès qui est là, il faut percer l'abcès. Parce que tant qu'on n'a pas la sécurité et tant qu'on ne se met pas d'accord sur, autour d'une table et puis avec une stratégie adéquate pour pouvoir ramener la paix dans notre pays, quoi qu'on fasse, je pense que l'appel va parvenir et l'indice de développement humain, tout ça, tout ce que nous faisons ici en termes de croissance économique, ça va parvenir. Donc ça ne va jamais advenir. Alors, il faut percer l'abcès. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai? Aujourd'hui, nous cherchons à avoir l'indépendance totale de la République centrafricaine, le Mali et ainsi de suite d'autres pays. Et c'est ça qui nous pose problème, tout simplement. Maintenant, je vais revenir sur l'appel. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas question de Touadéra. Ce n'est pas question de président, nous sommes une nation, c'est la contribution de tout le monde. Bon, si on sent qu'il y a une politique d'exclusion, bon, mais écoutez, vous savez que nul n'est parfait sur la terre. Mais le problème actuellement de la République centrafricaine, je parle même de la République centrafricaine, c'est un problème de prise de conscience à tous les niveaux. Voyez-vous, notre pays est attaqué, quand vous lisez les réseaux sociaux, il y a certains compatriotes malheureusement qui applaudissent. Or, vous voyez, lorsque chez vous, vous avez des soucis, même si dans un membre de famille, naturellement, il peut y avoir des divergences d'esprit, absolument, divergences de point de vue. Mais lorsque cette famille est attaquée par une tierce personne, naturellement, ces membres de famille doivent se réunir pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Moi, je pense, pour ma part, à l'unisson, nous devons nous mobiliser et faire appel à la population tout entière pour pouvoir résister d'abord à ces nébuleuses, à ces forces négatives qui malheureusement sont constituées tout simplement par des Africains et qui viennent d'ailleurs, ça nous le savons tous, qui viennent d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on doit défendre d'abord notre territoire ensemble et maintenant voir des questions d'ordre économique? Après, oui, je suis d'accord. Mais cela ne m'empêche pas de dire que non, nous avons
nous allons revenir.
Les besoins d'ordre économique.
Nous allons
là,
revenir.
La question, ce n'est pas sur l'économie. Vous avez posé la question
non, sur l'économie. Non, on y revient. On y revient, si ça vous voulez. Monsieur Bindoumi, oui, sur la question, les conséquences de la prise du pouvoir en la CEDECA depuis 2013 jusqu'à présent, nous avons encore les conséquences sur la population.
Je vous remercie beaucoup. Je voudrais, avant d'aller en profondeur, faire un commentaire du reportage qui a été fait au niveau de Dekeluka par rapport à l'avènement de CEDECA. Je voudrais, avec beaucoup de précision, indiquer que ce reportage n'a pas dit toute la vérité. Parce que lorsqu'on se rend compte que, effectivement, CEDECA a pris le pouvoir le 24 mars 2013, il y a eu le régime de terreur jusqu'au 5 décembre, quand la coalition anti-Balaka, la milice anti-Balaka a vu le jour et a commencé des combats violents pour que à N'Djamena, le 10 janvier 2014, le régime de Todja soit renversé. Et puis le 20, l'élection de Mme Samba Panza, nous avons connu une période de relâchement. Et puis nous sommes allés donc à un système d'attentisme qui nous a amenés à la consultation populaire à la base, qui s'est passée sur tout l'ensemble du territoire et dans les pays voisins.
Avec la présence même des groupes armés sur le terrain.
Avec la présence des groupes armés sur le terrain. L'opération s'est très bien terminée. Nous sommes arrivés au Forum national de Bangui du 4 au 11 mai 2015. Nous avons, au cours de ce forum, adopté plusieurs résolutions, parmi lesquelles le pacte républicain pour la paix et la réconciliation. Le régime qui était à l'époque de transition conduit par Mme Samba Panza a permis la réalisation des effets majeurs. Premièrement, tout le monde disait que le pape ne pouvait pas venir en République centrafricaine parce que c'était un pays invivable. Les mesures qui ont été prises à l'époque ont permis au pape de venir séjourner à Bangui et de repartir en bonne santé. Et tout le monde s'est dit qu'il n'y aura jamais de référendum constitutionnel. Au mois de décembre, le référendum constitutionnel a été organisé. Et tout le monde a indiqué que ce référendum a été organisé dans les meilleures conditions pour nous donner la constitution du 30 mars 2016. Nous sommes allés aux élections et les candidats ont battu campagne sur l'ensemble du territoire national. J'insiste dessus. Et donc, on a battu campagne sur l'ensemble du territoire national et nous avons élu le président. Le régime de transition n'a rien compliqué, n'a pas dit « je vais ajouter un an pour poursuivre mes programmes ». Le régime de transition s'est arrêté à la date de l'investiture du nouveau président, en laissant au nouveau président un pays qui était de nature à organiser des élections, de nature à circuler paisiblement sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est l'équivoque que je voulais lever. Et puis,
et je rappelle très rapidement que vous avez vu, ça fait deux minutes seulement, du résumé de 2013 jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas tout mettre, mais ce sont les grandes dates que nous avons relevées.
Voilà, je voudrais, pour les grandes dates, dire que si on dit que 2015, la période de transition, c'était des troubles qui ne se sont pas arrangés. Non, justement, il y avait au moment où le président de la République devrait être investi le 30 mars, une certaine accalmie, nos forces armées au défilé des chefs d'État étrangers sont venus, ils ont trouvé un pays qui respirait et qui pouvait continuer. Avec un arsenal juridique tel que le pacte républicain, les recommandations ici du Forum national de Bangui et les différents accords des pays voisins. Maintenant, première réponse, c'est ça qui fait que ce n'était pas aussi mauvais jusqu'à aujourd'hui. La deuxième observation que j'ai faite sur cette déclaration, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, les choses ne vont pas. La guerre continue. A contrario, ça veut dire que nous avons menti au peuple. Si on est d'accord que la guerre continue, c'est qu'on a menti au peuple. Parce qu'on a dit au peuple que nous avons recouvré l'ensemble du territoire national, 100% du territoire national. Nous avons dit au peuple qu'il n'y a plus de guerre, que ce sont des voyous qui sont en train de coupeurs de route qui sont en train de s'agiter. Mais si on reconnaît que la situation n'est pas revenue à la normale, ça veut dire que l'état de guerre continue. Maintenant, je reviens à la question que vous posez, M. Armando.
À qui la faute ?
À qui la faute ? Mais n'allons pas chercher la faute de midi à 14h. La faute, c'est à nous, les Centrafricains. C'est personne d'autre, c'est nous.
Nous,
comment vous pouvez imaginer ?
Moi non plus.
Hein. Ouais, si vous pensez que vous n'êtes pas dedans, moi je suis dedans. Mais comment vous pensez que nous ayons un document comme ça, le pacte républicain pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Tout est dedans. Qui dit voilà comment vous devez vous trouver, comment les Centrafricains doivent agir entre eux, comment doit se faire la gouvernance, comment se doivent être réglés les conflits inter-centrafricains, comment ça doit être réglé. Mais nous avons mis ça de côté. Nous avons mis de côté les recommandations du Forum national de Bangui qui précisait la position que les groupes armés devraient avoir. C'est-à-dire, vous êtes groupe armé à partir du Forum national de Bangui. Vous n'êtes plus groupe armé. Vous devez cesser... Transformez-vous en une formation politique. Vous ne pouvez résoudre les problèmes en Centrafrique que par la voie de la négociation et non par la voie des armes. Et puis plus loin, que vous ne devez pas rentrer dans le système de l'État. Je parle gouvernement, etc. Vous ne pouvez pas siéger comme
représentant
de l'État, à la présidence, au gouvernement et autres, lorsque vous avez pris les armes contre l'État. Et donc, on a mis tout cela de côté, toutes les recommandations.
Et pour vous, c'est ça qui a causé ce que nous connaissons aujourd'hui.
Mais absolument, je vais vous donner même des précisions. C'est tout ça, puisque vous savez, lorsque nous avons pris 2016, je parle de 30 mars 2016, nous avions 643 recommandations du Forum national de Bangui à mettre en application, qui portait sur la gouvernance, qui portait sur la paix et la sécurité, qui portait sur la justice et la réconciliation, qui portait sur l'économie et le système économique et social. Nous avons mis tout cela de côté. Les 200 millions qui ont été donnés pour 2016, pour que les recommandations soient ventilées sur l'ensemble du territoire, y compris aux groupes armés, nous avons mis de côté, nous avons décidé de ne payer que 20 millions pour que ces recommandations-là ne circulent pas. Et l'année suivante, nous avons reconduit du 200 millions à 20 millions. Et puis nous avons engagé dans l'esprit purement centrafricain tout ce qui s'est fait de bien avant. Ça ne nous regarde pas parce que nous ne sommes pas venus poursuivre le programme de l'autre. Nous allons créer notre propre programme. Et nous avons connu donc des négociations nouvelles pour arriver à des situations comme la recherche d'autres textes. Comme l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, alors que cette disposition-là existe déjà sur le parc républicain. Donc dis que nous avons fauté, n'allons pas chercher des Américains.
Vous l'avez déjà dit pour gagner du temps, M. Benoumi. Je vous redonne la parole, M. le ministre, porte-parole du gouvernement. Si vous voulez rebondir sur ce que M. Benoumi a dit, même s'il y a des attaques simultanées ou bien des coïncidences entre ce qui se passe en République centrafricaine et par exemple au Burkina Faso ou au Mali, aujourd'hui, le vrai problème centrafricain, c'est centrafricain lui-même d'abord.
Naturellement.
Qu'en dites-vous ?
Moi, je suis en partie d'accord et totalement d'accord avec ce monsieur Dombier, parce que le problème, il est d'abord centrafricain. C'est une question de prise de conscience, de savoir, c'est notre territoire, c'est notre pays, c'est notre patrie, c'est pas à quelqu'un d'autre de venir résoudre le problème à notre place, c'est une question de prise de conscience de façon générale. Et la crise, nous la générons dans notre pays. Je suis d'accord. Je pense que Si nous nous mettons d'accord et si nous sommes conscients, je pense que la crise va s'estomper. On n'a pas besoin d'aller chercher les solutions ailleurs. Je vais aussi rebondir. Oui, c'est vrai. Vous savez que quand il y a une situation, on a oublié de faire face à une situation. Alors, je suis d'accord qu'il y avait un pacte républicain. Mais ceux qui avaient signé, qui avaient pris part au forum de Bangui, et même les groupes armés avaient pris part. Mais c'est en ce moment-là qu'on devait prendre conscience. Mais pourquoi, qu'est-ce qui explique que quand ils signent, les responsables signent, les groupes armés signent un pacte ou bien un document officiel, ils font encore recours aux armes. C'est la question qu'on doit se poser. Et qu'est-ce qu'on doit en faire, je pense. Alors, la situation de l'accord qui a amené la PPR, la signature de la PPR, c'est la résurgence tout simplement des crises. Il faut trouver encore un palliatif puisqu'on n'a pas pu respecter le pacte. Donc, du coup, il faut trouver une solution à cela. Alors, nous avons opté, l'option de la République centrafricaine, ce n'est pas l'option d'une guerre. C'est l'option d'aller vers la pacification, la paix et puis dégager un consensus pour que la paix revienne, pas le verdure des armes, mais par le verdure de signature d'un accord. C'est à ça que nous avons opté. Alors, mais je pense que les choses ont changé. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à un moment où, quand ça ne va pas, il faut faire appel, il faut faire recours pour pouvoir ramener la paix. La paix n'a pas de prix, même si elle a un coût. Il faut arriver à un certain moment où, quand on ne comprend pas, il faut prendre des mesures.
Mais malgré tout, trois ans après son élection, le président de la République, Faustin-François Touadéra, a signé avec les groupes armés l'accord politique pour la paix et la réconciliation le 6 février, ici à Bangui, en 2019. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, ou bien les six groupes armés ont claqué la porte de cet accord pour rejoindre François Bozizé afin de créer la CPC aujourd'hui?
C'est l'esprit de mal. Vous savez, je vais remonter l'affaire. Je vais parler avec eux. Bozizé, il était radié du contrôle des armes. Et il a été repris par Patassé. Il est revenu aux affaires, chef d'état-major, inspecteur des armées, ministre. Et après, il a fait son choix. Le choix d'amener le désordre dans le pays. Et c'est ce désordre qui a fait renverser un régime démocratique en 2003, en 93, s'il faut le dire. Il y avait le régime démocratique et en 2003, Bozizé était encore président, il avait tout le pouvoir, toute la puissance totale publique pour pouvoir sécuriser la population et sécuriser le pays. Malheureusement, lui-même, à l'abandon, il était parti. Et c'est comme ça que la nébuleuse a eu raison sur notre territoire. Et il est parti en exil. C'est tout à fait normal pour sa vie. Parce que moi, je tiens beaucoup à la vie humaine. Mais quand il est rentré, je crois que, par le motif de la conscience, il doit se dire, bon, mais écoutez, c'est mon pays. Je dois être porteur, le messager de la paix, puisque j'ai vécu beaucoup d'expériences et d'expertise. L'expertise militaire, l'expertise politique, l'expertise d'exil, l'expertise de gestion des choses publiques et compagnie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être conscient. Apporter maintenant mon expertise, mon expérience pour pouvoir conseiller, dire aux centrafricains, le recours aux armes, ce n'est pas une bonne chose, la voie démocratique, c'est la meilleure, je dois entretenir ma petite famille, je dois donner des conseils aux centrafricains, je dois donner des conseils aux chefs de l'État pour dire, bah, attention, pour sécuriser le pays, c'est comme ça. Malheureusement, vous savez que je suis d'accord aussi avec M. Benoumi, qui est un grand juriste, la question de droit, c'est la Cour constitutionnelle qui a invalidé sa candidature. Mais il faut être d'accord avec nos institutions. Pourquoi est-ce que nous votons des textes? Nous sommes en incapacité.
Sur le point de François Bozizé, les six groupes armés qui ont claqué la porte de l'accord politique.
Permettez-moi. Laisse-moi parler avec eux.
Mon rôle, c'est de soulever certains flous. C'est ce flou-là
que je veux expliquer. C'est cette braise-là que je veux expliquer aux centrafricains. Alors, Bozizé, étant mécontent, il est parti. Il a regroupé tous ses ennemis pour pouvoir encore, ceux qui l'ont combattu, pour pouvoir maintenant créer le désordre dans le pays. Et encore, faille-t-il le dire, avec des étrangers. Voyez-vous, quelle est la conscience? Quelle est l'éducation que nous allons donner à notre peuple? Moi, je pense que chaque citoyen centrafricain, sinon le citoyen africain, doit être animé par le motif de la conscience. Nous n'avons pas deux continents, nous n'avons qu'un seul continent. Allez en Europe, vous prenez tout simplement une arme blanche, vous baladez dans la rue, vous avez automatiquement celui qui est perché à la fenêtre, qui va faire appel à la police pour pouvoir vous arrêter. Mais sur notre propre continent, nous alimentons les crises, vous voyez? Et ça ne se fait pas sérieux. Et ceux qui, comme on dit, les crises aujourd'hui, vous allez à la SRI. Vous allez voir que la plupart, c'est des étrangers. C'est des étrangers, c'est des gens qui n'ont rien à faire avec notre pays. Alors, c'est pourquoi, je dis, il est temps que, quelles que soient nos divergences politiques, je suis entièrement d'accord que la perception n'est pas pareille. Mais il faudrait que nous nous mettions d'accord pour pouvoir d'abord défendre le pays et nous asseoir autour de table pour dire, bon, voilà, nous avons fait pris des textes, nous n'avons pas respecté les textes et voici les conséquences.
Vous avez la parole, madame Gounebanan, sur cette question, vous avez compris. On est en train de chercher à trouver qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ce que nous connaissons jusqu'à présent, 10 ans après l'avènement de la CEDEAO, l'insécurité. persiste toujours dans le pays.
Moi, je voudrais d'abord rebondir sur ce que le ministre porte-parole du gouvernement a dit. Il vient de dire que quand le pays est attaqué, il faudrait que tout le monde se mette derrière le pouvoir pour d'abord défendre le pays avant de retomber sur des problèmes internes. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que il faudrait que le pouvoir puisse créer les conditions de cette adhésion. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que tout le monde soit unanime pour soutenir le pays quand le pouvoir est dans la radicalisation ? Quand le pouvoir est dans l'intransigeance et le manque de flexibilité, quand le pouvoir ne laisse aucun espace de dialogue et de coopération avec l'opposition démocratique. Comment voulez-vous que les gens se lèvent comme ça ? Donc, les gens sont complètement marginalisés. D'abord, l'opposition était qualifiée de terroriste, hein, des mots forts utilisés à mauvais escient. Alors que l'opposition ne fait que jouer son rôle. On ne peut pas en même temps accepter d'être dans une démocratie sans accepter l'opposition démocratique. En principe, l'opposition, c'est une institution. C'est un problème d'abord qui a été posé depuis de mettre en place les statuts, hein, le statut de l'opposition. Ça devait être une institution. Mais aujourd'hui, quand l'opposition veut jouer son rôle, l'opposition est mal vue et même presque empêchée de jouer son rôle. Donc, l'opposition est marginalisée. Mais comment voulez-vous que dans cette position de marginalisation, d'exclusion, de radicalisation, les gens puissent venir pour dire, bon, soutenant, mais il y a des gens, malgré tout, il y a des gens dans l'opposition qui ont condamné. Il y a des gens qui ont l'opposé. Nous, on a condamné. Tout ce qui se passe qui est de mauvais, nous, on condamne. Au niveau du collectif des femmes de l'opposition démocratique, on condamne. Moi, je me souviens, à l'époque, quand le président de la République avait pris fonction à l'époque, face à l'ampleur de problèmes d'insécurité dans le pays, il avait parlé de pacte d'union sacrée. Il avait parlé d'union sacrée. Tout le monde avait adhéré, y compris l'opposition démocratique. Tout le monde avait adhéré à cette union sacrée. Mais après, les gens se sont rendus compte que c'était peut-être juste un effet d'annonce parce qu'il n'y avait pas du contenu qui était donné à cette union sacrée-là. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de cadre de travail. Donc c'était juste l'effet d'annonce. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde était derrière le président de la République quand il avait pris le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens puissent petit à petit se retirer pour se retrouver aujourd'hui au niveau de l'opposition ? Mais c'est qu'il y a quand même, il faudrait faire vraiment une introspection et puis à chaque fois peut-être prendre du recul pour se poser les bonnes questions afin d'avoir les bonnes réponses. Parce que si à chaque fois, on se met à se poser toujours les mauvaises questions, on aura toujours les mauvaises réponses. Donc, il faut se demander pourquoi les gens y sont partis. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi les gens y sont partis? Donc, je voulais vraiment revenir sur ça, qu'il faut créer les conditions. Il faut créer, parce qu'aujourd'hui, le président de la République, il n'est pas le président du MCU, il n'est pas le président d'une partie du territoire, il est le président de 6 millions de Centrafricains. Donc, il doit se positionner en tant que rassembleur. Il doit se positionner comme un leadership, il doit avoir un leadership éclairé, un leadership intelligent, il doit se placer au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce que nous on constate ? On constate tout simplement que lui, il est peut-être complètement dépassé par les choses parce qu'il prend les mauvaises personnes, il s'entoure des mauvaises personnes qui font de la mauvaise politique et qui aujourd'hui, il n'y a que lui seul qui peut répondre parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui a prêté serment, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a eu le suffrage du peuple. On a toujours dénoncé, les gens ont toujours dénoncé ce mauvais entourage, mais il n'y a jamais eu de prise de décision. Vous voyez ? Donc, la radicalisation, ça sert à rien. Le manque de flexibilité, ça sert à rien. C'est pour ça que maintenant, je rebondis sur les pistes de solutions. Les solutions doivent d'abord, moi je suis d'accord avec M. Bindoumi, la solution doit d'abord être interne. Si on a une solution interne et qu'on reste ferme sur ça, mais on ne va pas ouvrir la brèche à l'extérieur. Mais d'abord, ça doit être d'abord interne. Et quand il dit ici qu'il y a eu des documents qui ont été élaborés et qu'il suffisait de respecter. Parce que ce qui se passe ici, dans notre pays, depuis les multiples accords qui ont toujours été signés, que ce soit les accords de Brazzaville, je ne sais pas, on est je ne sais pas combien d'accords.
De Libreville.
Carton, etc. Voilà, ça n'a jamais été respecté par les parties prenantes. Il peut avoir un début de respect, un début de résolution. Après, ça y est, tout le monde se désolidarise du document. Et le document reste lettre morte. On passe le temps à élaborer de bons documents pour des sorties de crise, mais après, ça reste lettre morte. Ça, c'est resté lettre morte. Mais après, il y a eu la PPR. Mais le problème, c'est que la PPR était faussée au départ. Faussée au départ, pourquoi ? Parce que c'était juste un accord entre le gouvernement et les groupes armés. On n'a pas intégré ni la société civile, ni les partis politiques. Mais pour régler un conflit dans un pays, on ne peut pas choisir une frange, une catégorie pour aller dialoguer avec. Donc ça veut dire que le pouvoir en place a privilégié les groupes armés. C'est à ce titre-là qu'à un moment donné, on a qualifié les groupes armés de partenaires du gouvernement. Parce que le gouvernement a privilégié les groupes armés pour signer cet accord en excluant et la société civile et les partis politiques d'opposition. Donc, pour revenir un peu sur cette APPR, aujourd'hui l'APPR sert de cadre de référence et au gouvernement et à la communauté internationale comme outil de recherche de paix, tout en sachant que l'APPR est en panne. L'APPR est en panne depuis. L'APPR n'a jamais... Est-ce que cette APPR a fait l'objet d'évaluation pour mesurer le travail accompli? Non. Il faudrait réévaluer l'APPR. Qu'est-ce que ça a donné? D'abord, il n'y a pas eu cette évaluation. Et puis maintenant, l'APPR, on nous dit aujourd'hui que c'est la solution miracle pour sortir le pays de cette situation d'insécurité, alors que l'APPR est à l'arrêt. L'APPR est en panne. Et maintenant, il est question de mutualiser la feuille de route de Luanda avec l'APPR. Mais tout ça, même feuille de route de Luanda, c'est à l'arrêt. Et à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça, attendre. Parce que la population n'attend pas. La population survit dans la brousse. La population est victime de toutes ces violences. Mais en attendant, il faut attendre l'APPR, il faut attendre la feuille de route de l'endroit. Il faut sortir de ce schéma-là et essayer de trouver d'autres schémas internes qui puissent faire en sorte que les positions puissent être rapprochées et créer Monsieur peut-être Bindoumi, d'autres espaces de dialogue.
Monsieur Bindoumi, à vous la parole. De la transition de Catherine Samba-Panza au premier quinquennat du président Touadéra, en passant par les différents mandats de la MINUSCA et au second quinquennat, bien sûr, du locataire du Palais de la Renaissance. Peut-on dire que tout le monde a échoué face aux stratégies des groupes armés aujourd'hui?
Non, personne n'a échoué. Personne n'a échoué en ce qui concerne la stratégie des groupes armés parce que nous n'avons pas appliqué les textes. Je voudrais revenir très fermement sur un certain nombre de points. Vous savez, quand Samba-Panza partait du pouvoir, il y avait à peine 6 groupes armés qui ne s'entendaient pas. 6. Anti-Balaka, puis Séléka, puis quelques autres qui s'agitaient, comme les 3R qui, à l'époque, n'étaient pas considérés comme groupe armé. Il n'y en avait que ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Première faute. Nous avons dit, nous sommes venus prendre le pouvoir, nous tendons la main. Quand nous avons tendu la main, en 2016-2017, la main est devenue longue, nous avons eu 14 groupes armés qui sont partis à Luanda. 14. Parce que nous avons tendu la main. Et qu'est-ce que nous avons fait à Khartoum, puis signé à Bangui? L'accord politique pour la paix et la réconciliation. On appelle ça accord politique pour la paix et la réconciliation. Nous, de la société civile, on a dit on ne critique pas. Comme on nous a dit que c'est la seule voie de sortie de la crise centrafricaine, voyons, mettons ça en œuvre et voyons ce que ça va donner. Mais comment voulez-vous un accord qui est signé par des partis? Les partis annoncent que nous ne sommes plus membres de l'accord. Et puis vous, vous continuez de dire oui, ils sont partis de l'accord, mais nous, nous gardons l'accord même s'il ne reste qu'une seule personne. Attends, vous signez un accord avec 14 groupes armés, gouvernement de son côté. Et puis il y a des groupes armés qui sont sortis de l'accord. Ils sortent de l'accord, vous vous dites non, cet accord-là, ça ne doit pas rester. Et puis s'il ne reste qu'un groupe armé, nous allons continuer avec. Et puis vous vous rendez compte que plus on maintient cette position, plus il y a des morts sur le territoire national. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est de dire, attention, nous avons traité avec des groupes armés, seulement nous n'avons pas pris la société civile, nous n'avons pas tenu compte des partis politiques, nous n'avons pas tenu compte de notre administration territoriale, mais à partir de ce moment-là, il faudrait que nous soyons autour d'une table, tout le monde, pour voir quelle est la meilleure solution de sortir de la crise centrafricaine. Mais lorsque on a voulu prendre cette voie, il y a des centrafricains qui sont allés tromper le président Touadéra pour dire que tu as trop négocié. Maintenant, tu ne peux pas continuer de négocier avec des gens. En disant que tu ne peux pas continuer de négocier avec des gens, nous avons ramassé quoi? 1000 morts. 1000 morts. Je dis 1000. Quand je dis 1000, c'est le nombre relatif. Ça peut être 10 000. Parce que nous avons dit au président, non, toi tu es élu démocratiquement, tu ne peux pas, cette histoire-là, tu ne dois pas parler avec les groupes armés, tu ne dois pas...
1000 morts, c'est que vous avez recensé tout ce qui s'est passé dans le pays.
Non, on passe plus de 10 000 morts, puis on continue à compter jusqu'à aujourd'hui, et on compte jusqu'à hier les événements de Ngaoundaï, je crois que c'est Ngaoundaï.
Hein? C'est ça, Batangafou, vous voulez parler
De l'OAM là, où il y a eu encore 5 morts. Donc on continue, peut-être qu'au moment où nous sommes ici, les gens sont encore en train de se tuer. Donc on a trompé le président. Et comme nous sommes sur ce tableau, je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas trouver une solution pour aider le président Ouattara à finir son mandat. Tant qu'il n'y a pas des choses que nous devons régler.
Comme quoi?
Je reviens. Vous savez que lorsque nous avons connu 2020, Monsieur Bozizé, que je ne veux pas citer sur ce plateau, était rentré et de bonne foi. Il est allé voir le président de la République. Il a dit au président de la République, moi je ne suis pas venu faire un coup d'État. Je ne suis pas venu pour ça. Et on a commencé à chanter à la radio nationale. Et un club de journalistes qu'on appelait, je ne sais pas, club de la presse. Insulte le matin, insulte le soir. Et Bozizé a été obligé de demander une audience à la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Pour dire, mais je suis venu, je veux rester en paix. Mais il n'y a que des insultes que je reçois à longueur de journée. Qu'est-ce que je fais? On lui a dit, vous n'êtes pas encore condamné. Vous êtes présumé innocent. Gardez votre état d'innocence. Bozizé a annoncé qu'il n'est pas venu pour faire un coup d'État. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour animer son parti politique. Moi, président de la Ligue, je suis allé voir le président de la République. J'ai dit au président que j'ai reçu Bozizé, qui a dit qu'il n'est pas venu pour faire un coup d'État. Donc, autant récupérer cette situation et rester avec lui. Et lorsque je suis sorti, à peine j'étais sorti du palais, qu'à la radio déjà, les insultes sortaient de partout. Alors, vous voyez l'avènement de l'anniversaire de la mort du président David Dacko à Mukinda. Vous disiez, allez pour déposer une gerbe de fleurs, les gens l'ont poursuivi pour aller l'attaquer. La mort de la femme de Serge Bokassa, au palais, à l'Omnisport, ça s'est créé des incidents. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de la décision de la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle a été de sorte que, mais Bozizé a dû fuir Bangui, parce que quand on a rendu la décision de la Cour constitutionnelle, Bozizé était à Kakabandoro, parce que simplement on a sorti des chars et cadré la ville parce qu'on va rendre la liste des candidats. Qu'est-ce que nous cherchons? Et là, à la date d'aujourd'hui, maintenant je reviens pour chuter à la date d'aujourd'hui.
Chuter rapidement.
Voilà, je chute là. À la date d'aujourd'hui, personne ne se rend compte des coups de couteau qu'on donne à Tandera sur le dos. Personne. Le ministre de porte-parole du gouvernement est devant moi. Comment vous pouvez aider un président en disant je vais prendre le baseball pour aller casser les jambes aux gens? Comment on peut aider un président sur la voie des ondes? Vous dites nous allons aller tuer tous les opposants un à un. Comment on peut aider un président? Et puis comment quelqu'un qui fréquente un président de la République peut se permettre de dire des insanités captées sur le plan international avec le nom du président de la République? Et puis comment on peut être aussi autour du président en acceptant que des gens agissent de cette manière-là?
Mais en vous écoutant, les problèmes sont profonds trouver de la solution, c'est un peu difficile à ce niveau. Hein.
Alors, les solutions sont, j'ai dit que les solutions sont entre nous. Vous savez, aujourd'hui, si le président Tadira, aujourd'hui, dit, écoutez, nous avons fauté. Tous ces agitateurs-là, des galaxies, des machins et tout, vous arrêtez ça à mon nom. Et non, à mon nom, je suis élu président de la République. Vous arrêtez ça autour de moi. Vous arrêtez. S'ils arrêtent ça. Si aujourd'hui, il dit, puisque nous sommes allés loin dans la division, je demande que tout ce qui est centrafricain, mettons-nous autour d'une table. Et mettons ça autour d'une table. Disons, regardez, tout le monde a critiqué la crypto-monnaie. On a voulu prendre des gens qui ont dit que la crypto-monnaie n'était pas une bonne chose, comme des criminels. Aujourd'hui, on est revenu pour reconnaître que la crypto-monnaie n'est plus la monnaie nationale. Si on avait écouté, on ne serait pas arrivé là. Deuxièmement, on a dit que la constitution de la République centrafricaine devrait être préservée parce que c'est l'honneur. Et aujourd'hui, le président Touadéra, élu président de la CEMAC, ne peut plus modifier la propre constitution sur la base de laquelle il est parti à la CEMAC. Est-ce que vous comprenez la conséquence? Le président Touadéra...
Donc les problèmes sont d'abord internes.
Oui, internes.
Voilà, on écoute Monsieur Dury. Monsieur Dury, vous avez six minutes faire, comme les autres oui, pour rebondir sur ce que vous avez
parlé. En train de parler mes prédécesseurs, je suis vraiment sidéré. Et je vais parler avec eux. Et heureusement, en face de moi, j'ai des gens qui ont eu à diriger le pays. Et dans quel état ils ont laissé le pays? Si c'est dans un état de paix, je suis d'accord. Madame était ministre des eaux et forêts. Quel est le tableau?
Le distérieur.
S'il vous plaît. C'est pas une échappatoire.
Désolé. Non, madame, c'est pas la peine. 20 ans après, vous savez, vous ne pouvez pas toujours regarder dans le
rétroviseur. Non, c'est pas ça. Il faut parler avec eux.
Non, mais oui, moi aussi, je parle avec le cœur. Je suis femme. Je parle avant tout avec le cœur.
Non, il ne faut pas parler de femme.
Je parle avant tout avec le cœur. Non, il n'y a que vous qui parlez avec le cœur. Nous, on parle avec quoi? Avec la tête, avec les pieds.
Vous avez le temps. Vous avez le temps de vous exprimer. Moi, j'ai pas le temps.
Non, mais moi, je recadre parce que
vous
ne
me regardez pas. Gardez votre calme. Vous faites comme si vous aviez un tableau positif et vous avez laissé un pays avec une économie décente avec la paix et ainsi de suite.
20 ans après.
Et après, non, c'est
donc
pas question de 20
dévoiler.
Ans après. Et après,
donc c'est pas question de dédouanement. Vous avez fait ça, nous aussi, on fait pareil.
Non, c'est pas ça.
Mais c'est un dédouanement.
C'est pas question de dédouanement, on a réussi.
À chaque fois, on entend cette chanson.
C'est pas question de chanson, madame.
Madame,
je vous parle sincèrement. Je dis que ça, c'est un raccourci.
Non, c'est pas un raccourci, je vous parle sincèrement.
Non, c'est un raccourci. C'est un raccourci.
C'est pas un raccourci, moi, je veux dire. Mais vous faites perdre le temps, madame.
Prenez note, madame.
Vous avez laissé qu'un tableau. 96, c'est vous qui avez commencé.
Continuez.
C'est bon,
je vous répondre.
96, la mutinerie a commencé.
Et deuxièmement, madame, vous revenez toujours en arrière par absence de résultats.
Vous
on vous demande des résultats aujourd'hui. Vous nous renvoyez 20 ans
en arrière.
Est-ce que vous êtes sérieux?
Madame Constance Gounibala.
Est-ce que vous êtes sérieux?
Mais vous perdez
non,
vous,
non, prenez,
non, prenez non, vous n'êtes pas sérieux.
Vous êtes en train de perdre l'opinion.
Prenez note et vous allez répondre, madame. Allez-y.
Madame, vous faites comme si vous avez laissé un pays décent.
Prenez note, vous allez répondre.
Je vais vous répondre.
Vous avez laissé un pays décent?
Je vais vous répondre.
Avec ceux qui vous ont
fait. Je vais vous répondre. Et s'il faut faire la comparaison entre le pays qu'on a laissé et le pays aujourd'hui.
Ah bon? Un bon
tableau. Et aujourd'hui.
C'est pas vous qui avez amené la rébellion?
Non, aujourd'hui.
La rébellion, qui a amené la rébellion?
C'est
pas votre gouvernance?
C'est vous, c'est vous.
C'est pas votre gouvernance qui avait amené la rébellion en 2003?
C'est pas votre gouvernance? Continuez.
Mais non, je vous dis.
Continuez, je
vous dis.
Mais c'est vous le raccourci. Je vous dis que vous
madame, s'il vous plaît. Madame, vous n'êtes pas là.
Non,
vous prenez note pour gagner du temps. Non. Pour gagner du temps, vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez parler.
Mais c'est pitoyable.
Vous ne pouvez pas parler ensemble.
C'est
allez-y, monsieur le ministre.
Je peux me permettre d'avancer
continuez.
Des adjectifs qui ne vont pas...
Continuez, monsieur Durie.
Vous êtes intellectuel.
Non, oui, je suis intellectuel, c'est pour ça que ça me fait pitié.
Madame Gounibala. Madame Boni, madame Gounibala, pour la lanterne du peuple, pour la lanterne de nos éditeurs.
Mais c'est vous qui avez commencé les hostilités. Qui a ouvert les hostilités? Depuis qu'on est sur ce plateau, qui a ouvert les hostilités?
Madame, je vous en prie, Est-ce que vous voudrez bien contenir un débat?
On est là sur un sujet... Vous trouvez des solutions, viens, vous, madame, vous commencez à attaquer les gens.
Oui, madame, prenez note,
vous avez
je vous
parlé,
en prie,
vous avez fait
je vous retire la parole, je vous retire la parole,
je vais vous dire quelque chose, madame, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Armando, vous savez, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Je vous dis sincèrement, retenez la date d'aujourd'hui. Vous allez voir, quand on va les décharger les enregistrements, vous serez étonné par rapport à tout ce que se disent nos partis démocratiques et compagnie. Et je parle avec sincérité. Vous serez étonné des coups de fil que les gens ont eu à passer et des accords que les gens ont eu à passer. On va décharger ça tôt ou tard parce que c'est une question de temps. Monsieur Bidombi, ici présent, c'est un juriste. Et la justice, s'il vous plaît. La justice.
Non, on gagne du temps, monsieur Bidombi.
Non, Bidombi, je vais revenir.
Mais qui le dit, s'il a eu mon coup de fil à moi, qui le dit.
Non, je ne vous parle pas de
madame,
si vous avez parlé de voix, droit d'ouverture, de dialogue avec. Ça vous fait marrer, mais malheureusement, vous avez un bilan. Et ça vous fait marrer, vous avez dit qu'il y a eu fermeture de dialogue. Le chef de l'État a fermé la porte à qui? À personne. Le chef d'État permet la porte à personne. Et alors, ceux qui se disent parti démocratique, il y en a qui n'ont pas eu à signer des accords avec les nébuleuses. Non, pas du tout. Maintenant, je vais rebondir sur les préoccupations de M. Benomé qui justifie au moins la réaction de Bosé. Ce n'est pas une raison au moins pour faire recours aux armes, M. Benomé. Vous êtes un homme de droit. Ce n'est pas parce qu'il y a un souci, il y a un frein, quelque chose qu'on doit avoir recours aux armes. Alors, si vous n'avez pas peut-être... Je pense que nous sommes des hommes d'État. Nous ne sommes pas là pour pouvoir ventiler certaines choses qui semblent être secrets d'État à l'opinion nationale et devant le public. Je crois que nous sommes vraiment soumis à des obligations de réserve sur ce plateau et dire quelles sont les solutions que nous préconisons pour pouvoir sortir la République centrafricaine de l'ornière.
Mais il faut poser les problèmes.
Sortir la République centrafricaine de l'ornière. Le problème est clair. Il faudra qu'on soit d'abord sincère. Parce qu'en même temps, on dit non, on est opposition démocratique et en même temps, on signe des pactes avec les nébuleuses. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, en même temps, on dit il y a des textes qui ne sont pas respectés. En même temps, nous-mêmes, nous ne respectons pas les textes. Ça, c'est notre problème. Et en même temps, on dit on doit s'asseoir pour pouvoir trouver des solutions. On ne s'assoit pas pour trouver des solutions. Ça, c'est notre problème. Alors, je voulais dire aux centrafricains que de l'Est, de l'Ouest, je pense que le problème centrafricain est centrafricain. Nous devons trouver cette solution ensemble. On devait s'asseoir pour pouvoir trouver la solution ensemble.
Donc, pas s'asseoir, okay. Dialogue, un autre dialogue.
Mais quel dialogue
inclusif.
Non, nous n'avons que combien de dialogues, monsieur
Armando. Le dialogue républicain n'a rien donné. On n'a pas réglé les problèmes politiques.
Les centrafricains doivent s'asseoir, mais comment?
Non, je vous en prie. C'est une question de prise de conscience. Nous avons fait combien de dialogues avec des recommandations? Nous avons eu des pactes, nous avons des recommandations, nous avons des résolus, nous avons les états généraux. Tout ça, ça a apporté quoi? C'est une question de cœur, de sincérité. Nous devons avoir l'amour de notre patrie et être conscients. Et du moment où nous avons cette conscience, c'est fini. La paix va revenir.
Madame Gounibala, vous avez 2 minutes, je vous en prie, pour répondre rapidement.
Oui, non, mais bon, il disait que le le président Bozizé n'avait pas accepté les décisions de la Cour constitutionnelle quand son nom a été écarté de la liste des présidentiables. Mais en même temps, qui respecte les décisions de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qui s'est passé après, là, tout récemment? Pourquoi la présidente de la Cour constitutionnelle est partie de là? Pourquoi? Parce qu'elle a rendu une décision qui n'avait pas été acceptée. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner l'exemple. Quand on est au pouvoir, on doit pouvoir donner l'exemple. Parce que quand on donne l'exemple, les autres suivent. Mais quand vous ne donnez pas l'exemple et que vous êtes là, vous ne respectez pas, mais vous demandez aux autres de respecter. Ça, ce n'est pas normal.
Quand vous parlez d'exemple, Madame Daron devait partir à la retraite, non? Madame Daron, à quel âge? Et à quel moment la jeunesse va travailler? Quand vous parlez d'exemple, ça doit commencer. Non, ce n'est pas ça.
Il faudrait Mais ça a été écourté tout simplement parce que la décision qu'elle a rendue, ça n'a pas plu. Et il fallait trouver, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Elle a été accusée de rage. Et puis, le superfuge, c'est que elle a l'âge de la retraite. Et puis, il y a eu tout ce cirque tout autour, juste pour la faire partir. Alors, comment vous voulez, en même temps, ne pas respecter les décisions et puis en même temps demander aux autres de respecter? Il faudrait que ça commence par vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous dire sincèrement, quand vous parlez avec votre cœur, moi aussi je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'hommes forts en République centrafricaine, ni en Afrique. On a besoin des institutions fortes. Parce que les hommes, ils passent, mais la République reste. Mais à chaque fois, quand il y a les présidents de la République qui sont là, ils sont toujours là en train de chercher à fragiliser les institutions. Toutes les institutions de la République aujourd'hui sont fragilisées. Il n'y a même pas une ligne de séparation de pouvoir nette entre le judiciaire, entre l'exécutif et puis entre le législatif. Hein, tout est confondu. Et à force d'être confondu, mais les gens, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à garantir un minimum de droits aux citoyens. La justice aujourd'hui est à deux vitesses. L'accès à la justice, c'est un droit, c'est un droit fondamental. L'accès à l'information, c'est un droit fondamental. Hein. Le fait de dire quelque chose, de se prononcer, de participer à la gestion d'un pays, c'est un devoir citoyen. Mais aujourd'hui, quand on veut parler, parce qu'on a une vision autre et qu'on veut s'exprimer en allant dans le sens contraire du courant du pouvoir, on est catalogué d'ennemis de la République. Mais on est quand même en démocratie. Même dans une même famille, les gens n'ont pas la même vision. On nous ramène vers un système de pensée unique. Même dans une même famille, même dans un couple, l'homme et la femme n'ont pas la même vision, ne peuvent pas avoir la même vision, les mêmes opinions. Mais pourquoi en face vous réagissez comme ça? Parce que c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de parler. Les gens, ils ont peur de critiquer. Mais pédagogiquement, c'est dangereux pour les enfants parce que ça annihile l'esprit d'éveil, ça annihile l'esprit critique. Et ça, c'est dangereux pour la société, c'est dangereux pour la jeunesse.
Monsieur Bindoumi, quelques secondes. Oui. Je vous vois remuer la tête. Vous voulez répondre sur certains points ici pour qu'on boucle rapidement cette partie du débat.
Je pense que nous sommes bien entendus avec le ministre porte-parole du gouvernement. D'abord, le conseil que je donne au ministre porte-parole du gouvernement, c'est que lorsqu'il y a un crime qui est commis en République centrafricaine, que la radio nationale ne soit pas empêchée d'en parler. Parce que lorsque ce sont les radios Notre-Dame, les radios Ndekeluka qui évoquent et que deux, trois jours après, on vient dire oui, il y a un crime, mais les autres n'ont pas réagi, alors que la radio nationale n'en a même pas parlé, il faut éviter. Je voudrais chuter, c'est que, monsieur le ministre, vous êtes le porte-parole du gouvernement, vous êtes le ministre le plus important, puisque vous êtes le porte-voix de tous les ministres. C'est vous le porte-voix de tous les ministres. Allez dire aux autres ministres que, à l'occasion de cette émission, nous avons dit que les groupuscules qui prennent des rondelles pour aller casser des pieds, ce sont des gens qui donnent des coups de couteau à Touadéra. Il faut dire aux membres du gouvernement pour qu'une mesure soit prise, que nous soyons un État respecté. Lorsque vous faites des gens font des réunions à Bimbo et que le lendemain, mon café est brûlé. Lorsque les gens font des réunions étendant la violence et que l'Union européenne est brûlée. Mais nous allons dire que c'est l'opposition. Il faut arrêter des gens qui s'agitent au nom du président de la République. sous prétexte qu'il aime le président de la République.
Laissez compte, voilà, terminer,
je vous en prie. C'est donc un message que je pour finir cette
oui, oui, on a bouclé, hein, on a bouclé. Vous voulez rebondir?
Je vais rebondir.
Je vous en prie, monsieur le ministre. Le temps fait défaut.
Vous savez que vous avez eu à gérer le pays, la gestion du pays. C'est pas, c'est, vous-même, au même titre que vous savez comment. La voie légale, pour, avant de communiquer sur quelque chose, il faut faire un recoupage d'informations. La voie légale de la République, c'est le porte-parole. On ne peut pas se lever aujourd'hui, donner les informations erronées à la population centrafricaine. Alors, c'est à ce titre, quand il y a un événement, on recoupe l'information, le porte-parole fait un communiqué au nom du gouvernement pour pouvoir informer la population, l'opinion nationale et internationale. C'est à partir de ce moment-là que la presse pourrait prendre le relais. Mais maintenant, vous savez que le chef de l'État se présente de tout le monde. Vous êtes un ancien, vous êtes une autorité de l'État. Vous pouvez saisir le chef de l'État, demander une audience, aller lui parler. C'est pas, je suis porte-parole, mais je suis pas un messager de qui que ce soit.
Je vous en prie. Allez.
Non, c'est de toute façon, ce que vous avez dit, lui, il est sur la radio, il va aller, si vous voulez aller lui parler, il n'y a pas de
problème. Fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Merci à vous, nos invités, d'avoir accepté notre invitation. Bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.